France Musique. Musique et moi.
Emmanuel Guibert.
Priscille Lafitte. France Musique.
Puis tout à coup, ainsi qu'un ténor effaré, lançant dans l'air bruni son cri désespéré, son cri qui se lamente et se prolonge et crie, éclate en quelques coins l'orgue de barbarie. Il brame un de ces airs, romances ou polkas qu'enfant nous tapotions sur nos harmonicas et qui font, lents ou vifs, réjouissants ou tristes, vibrer l'âme aux proscrits, aux femmes, aux artistes. C'est écorché, c'est faux, c'est horrible, c'est dur, et donnerait la fièvre à Rossini pour sûr. Ses rires sont traînés, ses plaintes sont hachées, sur une clé de sol impossible juchée, les notes ont un rhume, et les dos sont des la. Mais qu'importe, l'on pleure en entendant cela. Mais l'esprit transporté dans le pays des rêves, sent à ses vieux accords couler en lui des sèves, la pitié monte au cœur et les larmes aux yeux, et l'on voudrait pouvoir goûter la paix des cieux, et dans une harmonie étrange et fantastique, qui tient de la musique et tient de la plastique, l'âme, en les inondant de lumière et de chant, mêle les sons de l'orgue au rayon du couchant, et puis l'orgue s'éloigne, et puis c'est le silence, et la nuit terne arrive et Vénus se balance, sur une molle nue au fond des cieux obscurs, on allume les becs de gaz le long des murs.
Bonjour Emmanuel Guibert.
Bonjour Priscille Lafitte.
Et merci de vous prêter au jeu de Musique et moi ce matin. Vous êtes dessinateur, scénariste, écrivain, ami d'Alan Cope, père d'Ariol. Nous allons décliner ces multiples liens d'amitié et de parenté au fil de cette émission. Vous avez apporté avec vous dans votre mémoire, plus précisément, parce que vous avez récité par cœur un extrait d'un poème de Paul Verlaine, Nocturne parisien, qui donne à entendre le Paris des orgues de barbarie et des chanteurs de rue, qui nous amène à voyager dans le temps, notamment avec Satie. Même si ce nocturne date de 1919, Eric Satie a été le contemporain de Verlaine pendant 30 ans, les trois dernières décennies du 19e siècle. Il y a donc un peu de ce son-là chez Satie. Les notes ont un rhume et les dos sont des « là », mais qu'importe, l'on pleure en entendant ce son-là.
Oui, il faut peut-être dire une chose à nos auditeurs, c'est que quand on participe à votre émission, il y a un petit préalable qui est qu'on se retrouve un quart d'heure ou une demi-heure avant. Et il faut dire une chose, c'est que ça n'engendre pas la mélancolie. On a bien rigolé avec Marie Grou et Xavier qui sont derrière la vitre et vous-même. Et puis là, tout d'un coup, entre réciter Verlaine et écouter Satie, je dois dire que ça m'a collé non pas un blues, mais une espèce de bouleversement intérieur que j'ai un peu de mal à maîtriser parce que ce nocturne est sublime et il va falloir s'excuser par avance auprès des maîtres qu'on va faire entendre ce matin parce que de temps en temps, on va parler, nous, entre les morceaux. Et même si, au fond...
Parler après Aldo Ciccolini. Vous l'avez entendu, vous, en concert, Aldo Ciccolini?
Alors oui, ouais, c'est un merveilleux souvenir. Je l'ai entendu enfant ou, disons, adolescent dans une petite église des Hautes-Pyrénées qui s'appelle, le patelin s'appelle Saint-Just de Valcabrette, si mes souvenirs sont bons. Et là, il y avait ce monsieur absolument délicieux qui, je me souviens, à la fin de chaque morceau, ponctuait les dernières notes par un « et voilà ». Et c'était formidable de tout d'un coup qu'il se tourne vers nous comme ça pour nous prendre un témoin et nous dire « et voilà, celui-là, il est fait, au suivant ». Et il y avait une espèce comme ça de simplicité, de bonne aloi et de... qui allait très bien avec ce cadre, parce que on était en vacances, on était venu là un soir, on s'était quand même fait beau, hein, en famille.
Puis il y a une évidence peut-être dans l'interprétation de Ciccolini.
Oui, il y a une perfection, il y a quelque chose d'extraordinairement sensible, humain, enfin, qui vient à l'appui d'une écriture qui est magnifiquement inspirée. Enfin, un morceau comme ça, il faut quand même, faut le sortir, si j'ose dire, pardon de la trivialité de l'expression, mais il faut le faire. Ouais. Et je trouve que quand un homme comme Satie est servi par un gars comme Ciccolini, ça nous fait un concentré d'émotions, quelque chose qu'on peut écouter des milliers de fois dans son existence sans en faire le tour. Et qui, certains jours, vous cueille à la gorge, quoi, vous bouleverse.
Emmanuel Guibert, vous avez accouché d'un bon nombre d'albums. Vous êtes...
Oui, fait peur.
Lauréat du prix Eisner, soit la plus haute récompense de la BD américaine, en 2010 pour vos albums Le Photographe, qui raconte les pérégrinations d'une équipe médicale, travaillant pour Médecins Sans Frontières dans l'Afghanistan en guerre des années 80. Vous avez reçu le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2020 pour l'ensemble de votre œuvre. Il faut citer une série d'albums autour d'Alan Cope, tout votre travail Destination des enfants, Les Sardines de l'espace, le personnage d'Ariol, et puis vous publiez chez Gallimard tout récemment un texte sans dessin qui raconte votre amitié à distance avec l'architecte américain Michael James Plotz. Le livre s'intitule Mike, tout simplement. Votre moyen d'expression est le dessin et l'écrit, ou plutôt l'imbrication, le dialogue entre texte et image, Emmanuel Guibert, et on va y ajouter une autre dimension ce matin, la dimension musicale.
Thank you.
Le swing de Sidney Bechet en 1958 à Versailles. Sidney Bechet, un Américain qui avait préféré vivre en France, un peu comme votre ami Alan Cope. Est-ce que vous aviez déjà fait le rapprochement entre les deux personnages?
Non, j'y avais pas pensé. Sidney Bechet, pour moi, j'ai 4 ans. On vient d'emménager, mes parents et moi, dans un petit patelin de ce qui s'appelait à l'époque les Basses-Alpes. Et le patelin lui-même s'appelle Saint-Auban-sur-Durance. Et dans ma chambre d'enfant, j'ai un petit fauteuil en osier et je me souviens que je grimpe dessus. Je me mets ce disque qui était un 33 tours mais qui pesait encore le poids d'un Kuhnyaman. Et j'écoute Sidney Bechet et j'ai un petit pipeau, un petit flutio noir du genre qu'on vous demande d'avoir quand on va à l'école en maternelle. Et dans ce petit flutio, je souffle et j'ai l'impression que c'est moi qui aimais les sons qu'on vient d'entendre. Je me souviens que c'est une espèce d'ivresse extraordinaire. C'est que, évidemment, je dois être très loin de tout ça. Je dois sortir quelques sons inarticulés ou pas de sons du tout. Mais le fait que j'écoute ce disque me donne l'impression de le créer. Et c'est une impression qui ne s'est jamais effacée et qui est à l'origine, je pense, qui fait partie des primes expériences qui sont à l'origine de mon intérêt, pour pas dire de ma passion pour la musique.
C'est le swing, j'imagine, de Sidney Bechet, là, que vous ressentez, que je vous voyais d'ailleurs
gigoter.
Danser.
Oui, oui, on peut pas ne pas gigoter, oui.
Est-ce que vous vous êtes venu au dessin à peu près à la même époque?
Oui, tout ça est certainement contemporain. Je pense que j'ai dessiné certainement un peu avant. Enfin non, à vrai dire. Tous les enfants sont des artistes, et souvent des grands artistes. Et ils ont un carquois dans lequel il y a toutes les disciplines d'un coup, ce qui est extraordinaire. C'est que les enfants sont à la fois des sculpteurs, des chanteurs, des danseurs, des dessinateurs. Et on a tendance à se demander où tout cela disparaît quand on atteint les rivages parfois ingrats de l'adolescence. Mais enfant, on s'interdit rien de tout ça. Il faut dire que ce sont des expressions qui nous sont absolument indispensables.
Et donc vous vous êtes rêvé musicien? C'est ça, musicien de jazz?
Je l'ai été, disons. J'ai eu une carrière entre 4 et 6 ans où, sur mon petit fauteuil en osier où j'ai été un virtuose.
Oui, ouais, vous avez joué d'autres instruments?
Devant de grandes foules.
De peluches.
Est-ce que j'ai joué d'autres instruments à l'époque? Non, c'était surtout mon flutio dont je devais régulièrement dévisser le bec à mesure qu'il se remplissait de salive. Et non, je chantais à tue-tête. J'ai toujours chanté. J'ai toujours tenu compagnie en chantant. Et voilà, c'était ça essentiellement mes instruments, avant que de découvrir beaucoup plus tard la guitare quand j'avais 16 ans.
Oh,
Alfred Deller accompagné de Desmond Dupré au luth, dans un chant de John Dorland, Flo My Tears. Est-ce que vous avez déjà dessiné Emmanuel Guibert en écoutant la voix d'Alfred Deller?
Ah oui, ça a bien dû m'arriver. Je me rendais compte d'une chose en écoutant ce qu'on vient d'entendre. Vous avez de très belles enceintes là dans ce studio et c'était vraiment une expérience merveilleuse. C'est que ce qui est tout aussi important dans les enregistrements de cette époque, c'est si j'ose dire le son de la voix que le son de la pièce, le son de l'environnement, le son de, il y a quelque chose de merveilleusement vivant qui tient à la fois au cocktail de fragilité et de force qu'il y a dans cette voix. Et puis à l'air alentour, qui est la condition de la musique. Il faut qu'on sente. C'est tout ce qui différencie la musique sous vide, si j'ose dire, de la musique vivante, de la musique qui se fait. C'est qu'on entend le risque de la voix chaque fois qu'elle se lance, je trouve. Tout autant dans ses assurances que dans ses tremblements. C'est quelqu'un qui va chercher les notes. C'est quelqu'un qui de temps en temps les tient avec un vrai aveu de fragilité. Et c'est ça qui me touche. Et puis on sent l'air qui porte cette musique. Et du coup, cet air pénètre dans la pièce en même temps que la musique elle-même. Et il serait fort dommage, je ne sais pas, que à la suite de quelques manipulations d'ingénierie sonore, on enlève cet air pour nettoyer en quelque sorte l'enregistrement. Et du coup, on enlèverait par la même occasion la poésie.
Est-ce que c'est une voix dont vous parlez, Alan Cope? Votre ami, je fais la connexion parce qu'Alfred Deller, lui, avait débuté sa carrière de contre-ténor juste après la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Il avait servi durant la guerre en travaillant dans une ferme au service de l'armée britannique. Pendant qu'Alan Cope, donc cet Américain dont vous êtes devenu très proche, faisait ses armes aux États-Unis avant de débarquer en Europe.
Oui, Alan a fait connaissance avec ce qu'il appelait la grande belle musique.
Ouais.
Bizarrement, à Fort Knox, dans le Kentucky, qui était cette usine à soldats qui a produit la quasi-totalité des troufions américains qui sont venus se battre en Europe et puis également sur le théâtre pacifique. C'était des dizaines de milliers de soldats comme ça qui étaient formés à la guerre. Et contre toute attente, un soir, aux messes des soldats, en grimpant un escalier, Alan a poussé par inadvertance une porte. Rien n'indiquait ce qu'il y avait derrière cette porte, mais une fois poussé, il s'est rendu compte qu'elle cachait une pièce capitonnée avec de la moquette, un piano, un tourne-disque, des disques, un environnement qu'il n'avait absolument pas connu dans son enfance, mais il s'est tout de suite senti chez lui. Il y avait quelques jeunes soldats qui étaient plus calés que lui et qui ont pu lui présenter un certain nombre des musiques qu'il faisait entendre ce soir-là. Et il a joint assez rapidement une sorte de salon musical qui proposait des concerts de disques. À l'époque, tout le monde n'avait pas de pick-up. Et donc, il se rendait dans un endroit où il y avait un particulier qui avait un pick-up et qui faisait écouter des disques et qui, en même temps, comme il était un peu érudit, présentait à ces jeunes soldats ce qu'ils allaient entendre et discuter un peu musicalement de ce que ces jeunes gens allaient écouter. Et c'est comme ça qu'Alan s'est formé à attraper, disons, le virus de la musique classique. Et il est touchant pour moi qu'à la fin de sa vie, quand on s'est connu, il ait repris cette habitude, somme toute, de m'organiser des concerts de disques pour moi tout seul.
salle, c'est-à-dire qu'on passait une ou deux heures dans son salon, l'après-midi, le soir. Il choisissait soigneusement les disques qu'il voulait me faire entendre, et comme on avait dû le faire pour lui quand il était jeune homme, il les introduisait par un petit speech et ensuite on les écoutait.
un extrait du Messie de Handel, He Was Despised, chanté ici par Kathleen Ferrier en 1958, accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Adrian Boult. Vous nous parlez à l'instant, Emmanuel Guibert, de cette rencontre avec Alan Cope. Pour qu'on situe aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vous avez consacré plusieurs albums à cette amitié, à cette rencontre avec cet Américain qui était venu vivre en France après avoir servi dans l'armée américaine et débarqué en Europe en 1945. Qu'est-ce que cette rencontre a changé peut-être pour vous dans votre façon d'écouter la musique ? Vous nous disiez qu'il organisait des sessions d'écoute. Est-ce qu'il vous a fait écouter autrement, notamment la voix de Kathleen Ferrier ?
Il me l'a fait découvrir surtout. Je connaissais pas Kathleen Ferrier quand il me l'a présenté. Il y a un certain nombre de musiciens comme ça que j'ignorais parce que je suis très ignorant en musique classique et je me rappelle de ces après-midi où on écoutait tous les deux pieusement cette femme. Je me rappelle d'avoir entendu ce morceau avec lui dont la force est nucléaire parce que quand on entend il a été méprisé, il a été rejeté. Ça parle si profondément à chacun. Et puis, elle a cette prononciation archaïsante, merveilleuse, despised, rejected. Et puis, cette voix qu'on a envie de rapprocher, celle de Delaire, d'ailleurs, parce qu'au fond, elles vont l'une vers l'autre, d'une certaine manière. Et elles vont l'une vers l'autre dans l'androgynie. Sont deux voix qui allient le principe féminin et le principe masculin toutes les deux et qui ont accompli tout le travail nécessaire pour délivrer l'émotion dans toute sa pureté sans qu'on ait plus aucune notion presque musicale, si j'ose dire.
De technicité.
De technicité, on est en train d'écouter des histoires, on est en train d'écouter des passions, on est en train d'écouter des passions à tous les sens du terme. Et je trouve que cette Kathleen Ferrier, qui par ailleurs était belle comme un ange, elle est décédée, elle avait je crois une petite quarantaine d'années. Je me rappelle d'un moment très troublant pour moi, c'est que Alan souffrait à l'époque du cancer de l'œsophage qui allait l'emporter. On était là tous les deux en train d'écouter de la musique. Et j'avais ouvert sur les genoux un coffret de disques de Kathleen Ferrier qui m'avait remis pour que je consulte les textes qui étaient. Et je venais de lire qu'elle était décédée d'un cancer à 40 ou 42 ans. Et Alan me regarde et me dit « Sais-tu qu'elle est morte d'un accident d'avion ?» Et je réponds spontanément « Non, elle est... » Et puis la phrase s'arrête dans ma bouche et... J'observe un petit temps, puis je retombe sur mes pieds en disant « Oui, je viens de lire qu'elle est morte d'un accident d'avion, en effet. » Voilà. Et je réécoute souvent les quelques disques que j'ai de Kathleen Ferrier à la maison. D'abord parce qu'évidemment, comme toute musique qu'on a entendue dans des circonstances marquantes, elle me replonge très exactement dans l'ambiance dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et puis parce qu'encore une fois, avec des interprètes de cette qualité, on n'a jamais fait le tour d'un morceau, on n'a jamais fait le tour d'un compositeur. Et puis ce sont des artistes qui nous suivent à mesure des évolutions de notre propre vie.
L'adagio du 23e concerto de Mozart, Monique de la Bruchellerie au piano, accompagnée de l'orchestre de Lausanne, dirigé par Arpad Gerech. C'est un enregistrement de 1963. Ce qui est étonnant dans le parcours d'Alan, tel que vous le retranscrivez, notamment dans la guerre d'Alan, c'est le nombre de musiciens qu'il croise sur sa route en Europe, entre Le Havre et la Tchécoslovaquie. Et il rencontre notamment cette pianiste concertiste, enfin, vous allez nous raconter, parce qu'il y a une histoire dans l'histoire, Monique de la Bruchellerie, qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà à quelle occasion Alan a pu l'approcher ou déjà entendre parler d'elle ?
Monique de la Bruchellerie, en 1945, donc, était une personne déplacée, comme tant d'autres, et elle était à ce moment-là en Picardie, du côté de dans le pays de Bray, et à l'endroit où Alan était cantonné. Et elle a spontanément ouvert la maison dans laquelle elle se trouvait, où il y avait un piano, à quelques soldats qui passaient par là, dont il était, pour leur proposer de leur jouer de la musique et à la fois de les réconforter, de les édifier de cette manière. Et donc Alan a fait sa connaissance à cette occasion et de temps en temps, accompagné d'un certain nombre de ses camarades, il est allé écouter Monique de la Bruchellerie. Et puis il l'a retrouvée quelques années plus tard, à l'occasion d'un concert qu'elle donnait à Paris. Il est allé la voir en coulisses pour lui rappeler ses bons moments. Elle se souvenait très très bien de lui. Elle lui a demandé des nouvelles d'un dénommé Francis, qui était un des jeunes soldats dont Alan m'a dit qu'il était très très clairement très épris d'elle. Et il n'avait ni l'un ni l'autre de nouvelles de Francis. Donc ils ont pensé, en se mordant la lèvre inférieure, que peut-être, malheureusement, Francis n'avait pas survécu à cette Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, Monique a de cette manière été importante dans la vie d'Alan, un point tel donc qui m'en a abondamment parlé. Et puis bon, ça a été une grande pédagogue. C'est une femme qui a malheureusement vu son existence de concertiste et même, je pense, de pianiste dramatiquement stoppé par un accident d'auto qui aurait pu lui coûter la vie en Roumanie dans les années à la fin des années 60, je crois. Et mais elle a laissé une œuvre extraordinaire. Il y a un très beau coffret que j'écoute aussi souvent. Et puis vous m'avez signalé tout à l'heure à juste titre qu'elle est présente dans le Je me souviens de Pérec. Parmi toutes les choses dont Pérec se souvient, il y a un concert de Monique de la Bruchellerie, si mes souvenirs sont bons,
dans la cathédrale de Chartres. Oui, c'est ça. En 1953, je vais rechercher la référence.
D'accord, formidable. Thank you.
groupe était-il musicien lui-même, Emmanuel Guibert? Est-ce que vous l'avez entendu jouer, chanter, jouer de l'harmonium, je crois?
Oui, il jouait du piano, il avait un piano chez lui, un petit piano droit, et il écrivait d'ailleurs, moi-même je ne déchiffre pas le solfège, donc j'ai porté ses écrits ensuite à un musicien qui m'a dit « mais c'est sa langue, ça n'est pas la langue officielle du solfège ». Et donc il avait une notation qui lui était toute personnelle, mais c'était avant tout, je pense, un mélomane, quelqu'un qui a vécu entouré de musique, pétri de musique, qui aimait bien la partager, qui se fabriquait aussi ses propres pick-up, l'engin sur lequel on écoutait le disque, qui d'ailleurs, je dois la vérité dire qu'il tombait souvent en panne, mais c'était lui qui l'avait fabriqué, et ça l'a suivi toute sa vie.
Vous, vous êtes imprégné de sa voix à lui, de la voix d'Alan Cope, est-ce que vous l'avez enregistré, vous l'avez longuement écouté en tout cas? Comment est-ce que vous procédez pour travailler? Est-ce que vous... Vous prenez des notes? Est-ce que vous l'enregistrez sur un dictaphone?
J'avais un magnétophone, oui, sur lequel j'ai enregistré l'équivalent, je pense, d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'heures de conversation entre nous, qui me permettent, plus de 20 ans après sa mort, de continuer à lui consacrer des livres, parce que j'ai toutes ces archives. Et puis, on s'est également énormément écrit, donc j'ai des tiroirs qui sont pleins de notre correspondance. Enfin, j'ai beaucoup de sources pour pouvoir continuer à travailler en son absence. Il n'empêche que j'aimerais bien, de temps en temps, décrocher mon téléphone ou sauter dans un train pour le retrouver.
Pour réécouter sa voix, est-ce que vous parvenez à transcrire le son de sa voix, ce timbre-là, ces intonations par écrit? Ou est-ce que c'est une frustration d'y aller écrit?
Non, moi je ne peux pas tellement juger. Je reprends évidemment ces expressions. Je fais en sorte de ne jamais mettre dans nos livres des mots qui n'aient pas proférés. Il m'arrive de faire quelques coutures d'une phrase à l'autre, etc. Un peu de ce que vous appelleriez du montage. Mais le fait est que je suis extrêmement fidèle à la lettre de ce qu'il a dit. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai enregistré. Avant de le connaître, je prenais des notes, justement. Et avec lui, je me suis rendu compte que c'était impossible. Il avait une phraséologie qui était tellement à lui, un accent jusqu'à une façon de se racler la gorge qu'il fallait que je capte. Donc c'est pour ça que j'ai tout pieusement enregistré et conservé et fait transférer en numérique, etc. pour pouvoir l'écouter jusqu'à plus soif quand je prépare mes livres. C'est une voix que j'ai en tête constamment, oui.
Vous l'avez même enregistré?
En train de chanter, oui.
En train de chanter?
Oui, a cappella, oui.
Beautiful dreamer, wake unto me. Starlight and dewdrops are waiting for thee. Sounds of the rude world heard in the day, lulled by the moonlight, have all passed away. Beautiful dreamer, queen of my song, list while I woo thee with soft melody.
Beautiful Dreamer, rêveur magnifique. On entendait la voix d'Alan, la vôtre aussi. Vous chantiez ensemble?
Un peu derrière. En fait, on a triché, on n'a pas chanté ensemble. Ce jour-là, j'ai enregistré Alan seul et puis ma voix a été rajoutée lorsque le disque qu'on écoute, qui s'appelle La musique d'Alan, a été enregistré il y aura bientôt 2 ans. Au studio La Buissonne de Gérard de Haro, à Pernes-les-Fontaines, du côté de Carpentras, et sous la houlette de Philippe Guelmetti, et qui réunit donc 6 musiciens, 3 Français et 3 Américains, à son initiative, autour d'Alan, pour que chacun d'entre eux compose des morceaux inspirés de la lecture de mes albums.
Et dans quelle mesure vous avez pris part à cet enregistrement-ci? Ce sont des chansons que lui aimait vous chanter, c'est ça? Que vous avez cherché à transmettre, notamment à Bill Carruthers ici au piano, sa femme Peg Carruthers qu'on entendait au chant.
Oui.
Vous avez été embarqué dans cette aventure musicale parce que vous baignez dans le jazz un peu?
Alors depuis quelques années, depuis je crois à peu près 8 ans, j'ai l'extrême bonheur de réaliser toutes les pochettes d'un label qui s'appelle Vision Fugitive, qui a été créé par Philippe Mouratoglou, Jean-Marc Foltz, Philippe Guelmetti, et puis où sont régulièrement évidemment toutes sortes d'autres instrumentistes invités. Et Philippe, à l'orée de ce label, donc, m'a très gentiment convié un jour à déjeuner pour me proposer d'illustrer la première pochette. Et puis, on s'est entendu comme larrons en foire pendant ce repas et on s'est quitté sur l'idée que j'allais faire toutes les pochettes de ce label, ce qui n'est pas un travail harassant parce que c'est trois pochettes par an. Mais c'est un grand privilège que de recevoir la musique, les fontanelles pas encore refermées comme ça, à l'état encore un peu matriciel, écouter, discuter avec les musiciens, leur envoyer les dessins.
Ça vous arrive d'être en studio même avec eux ?
Ça m'est arrivé d'être en studio avec eux et en particulier évidemment pour ce disque d'Alan dont j'ai suivi tout l'enregistrement. Ça a été un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait de ma vie que de me convier à écouter au fond mon vieil ami 20 ans après sa mort devenir de la musique, et parce que c'est ce qu'il aurait pu rêver de mieux. Et je dois dire que ces musiciens avaient tellement compris, sympathisé avec lui, percé à jour qui il était, que je le sentais, si j'ose dire, en moi, comme font les morts en nous, je le sentais se réjouir, sourire de tout ce qui arrivait là-bas. Ce qui est frappant, c'est que quand les morts se réjouissent en nous, souvent ça se traduit sous forme de larmes sur nos visages, mais sans de bonnes larmes. Et donc ce disque a été en 4 ou 5 jours d'enregistrement mené à bien. Et j'ai beaucoup dessiné. Ils m'ont permis d'être parmi eux. Même quand le rouge était mis, j'étais à l'intérieur du studio et je pouvais donc côtoyer les musiciens en action et écouter cette musique en train de se faire. Thank you.
Philippe Mouratoglou à la guitare. C'est un extrait de son album Exercice d'évasion, paru sur le label Vision Fugitive en 2013.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le dessinateur, écrivain, scénariste Emmanuel Guibert est l'invité de Musique et moi ce matin. Emmanuel Guibert, comment laissez-vous courir le crayon, l'inspiration quand vous écoutez une telle musique?
Ah, on vient d'entendre alors un de nos trésors nationaux de la guitare, là, qui est Philippe Mouratoglou, qui choisit lui-même, évidemment, au sein de ses disques, les morceaux qu'il va exhumer comme ça dans le passé, que ce soit, il a consacré un disque mémorable à Fernando Sor. Là, on vient d'entendre donc Francesco da Milano. Et puis, il les mêle à des compositions contemporaines, souvent les siennes d'ailleurs. Et ça fait de ces disques des expériences d'écoute qui m'accompagnent, si pas quotidiennement, en tout cas hebdomadairement. Et j'écoute très souvent Philippe en travaillant. C'est beau de voir à quel point d'ailleurs on peut s'inspirer les uns les autres. Je pense que tous ces modes d'expression sont la porte à côté, évidemment. Donc on sait que les peintres écoutent de la musique, on sait que les musiciens regardent la peinture, et on sait, pour peu qu'ils le disent, qu'ils l'expriment, ou parfois on le devine en les écoutant, en les regardant, à quel point ça les impressionne. Et c'est très agréable d'inviter Philippe à la maison, par exemple, pour qu'il jette un œil à mes carnets et qu'il sélectionne ou présélectionne comme ça des images qui pourront servir pour l'un ou l'autre livret ou l'un ou l'autre disque. Et avec les copains qui l'entourent là et qui sont devenus les miens, on a comme ça une complicité qui est basée sur nos modes d'expression respectifs et qui est une grande chance. Et c'est beau d'avoir ça dans sa vie.
Oui, c'est une grande chance. Il faut croire que l'amitié est centrale dans votre démarche artistique, Emmanuel Guibert.
Oui, on peut même enlever la démarche artistique. C'est...
dans votre vie.
Ah oui, c'est vraiment indispensable.
Et vous cherchez à rendre comme ça des échanges, des discussions avec les amis que vous admirez. On sent l'admiration dans vos écrits. On sent aussi que vous les considérez comme des alter-ego, que vous vous intéressez aux moindres détails. Vous cherchez à vivre avec eux. J'aimerais qu'on prenne connaissance de votre dernier travail en date, Mike, le récit de cette amitié avec l'architecte américain Michael James Plautz, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est donc publié aux éditions Gallimard dans la collection Signes. Et pour la première fois, je crois, vous ne dessinez pas. C'est peut-être la première fois, mais vous racontez avec des mots uniquement.
Oui, j'ai écrit dans le passé des nouvelles, des choses comme ça, mais je n'avais jamais écrit, c'est vrai, un texte aussi long sans images. Il fait, je sais pas, à peu près 260 pages, ce livre. Et voilà, c'est le fruit d'une demande que m'a adressé Thierry Laroche des éditions Gallimard, qui m'a permis de mener à bien un texte que j'avais commencé à écrire avant même qu'il ne me contacte, mais que j'ai pu, grâce à lui et à son invitation, achever, et qui est en effet un portrait d'un homme qui en valait vraiment la peine, qui était en effet un architecte, qui était avant tout un travailleur du bois, quelqu'un qui avait des notions très solides de menuiserie et de charpente, et puis qui était également un dessinateur d'observation. Et c'est là-dessus que notre amitié commune s'est assise. La première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est montré nos carnets. En les feuilletant l'un et l'autre, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'affinités. Ça s'est confirmé dans nos discussions. Et donc, c'est un livre sans dessin, mais qui parle énormément de dessin. Et singulièrement de cette pratique du dessin qui, elle aussi, remplit si agréablement et si utilement l'existence, qui est celle du dessin d'observation, c'est-à-dire du dessin qu'on fait devant le motif, quand on regarde quelque chose et qu'on essaye d'en emporter une trace dans un carnet ou sur une feuille volante. Et pour ce faire, on regarde vraiment, c'est-à-dire que l'œil analyse, on prend du temps et on essaye de transporter ce qu'on a devant soi, de le découper comme on le ferait à même la réalité avec une paire de ciseaux et de l'emporter dans son carnet, non seulement pour pouvoir le consulter ensuite tout au long de sa vie, mais surtout pour conserver dans la mémoire ce qui s'est inscrit au moment du dessin. Parce que cette concentration, elle a une vertu, c'est qu'elle fait que notre mémoire des formes se peuple, se meuble vraiment. Thank you.
L'ouverture de l'album Birth of the Cool de Miles Davis, enregistré en 1949 à New York. Et c'était une des musiques qu'écoutait votre ami architecte, Mike. Quel mélomane était-il, Mike ?
Le fait est qu'on n'a pas parlé de musique ensemble, et, ou très peu. Et c'est après sa mort, quand je suis allé dans son atelier au Nouveau-Mexique, à Santa Fe, que j'ai découvert sa discothèque. Et il m'avait invité à venir travailler dans son atelier, évidemment de son vivant, en espérant qu'on pourrait y travailler ensemble. Et puis ça ne s'est pas fait. Et j'y suis allé donc 5 ans après sa mort à peu près. Et je suis entré dans ce lieu qui était une sorte de palais de la Belle au bois dormant, puisque personne, pour ainsi dire, n'y avait pénétré depuis. Et j'ai essayé de remettre en marche la chaîne stéréo. Je ne suis pas arrivé le premier jour, mais ensuite on m'a aidé. Et j'ai pu, en dessinant à l'endroit où il se tenait, écouter un certain nombre des disques qu'il avait là. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de Debussy aussi, il y avait du Donizetti, il y avait Natalie Cole, il y avait Jimmy Cliff, il y avait du Miles Davis aussi pas mal, et puis du Forêt. Bon, c'était un amoureux de la France, c'était quelqu'un qui il parlait pas du tout bien notre langue, donc il s'y risquait pas, mais je dis dans mon livre que, faute de conversation, il a beaucoup embrassé la France. Et il venait souvent, il dessinait énormément. Il a un patrimoine immense de croquis faits dans la plupart des régions de France. Et il ramenait dans son escarcelle aux États-Unis de la musique française. Et je me rappelle d'avoir écouté ces morceaux de Forêt pendant que j'étais là-bas. Et je dois dire que le premier jour était très plombant, parce qu'il n'y avait pas la musique. Mais du jour où j'ai pu la mettre, à partir du deuxième jour de présence là-bas, je suis resté une semaine, la musique a vraiment soulevé l'atelier, et je me suis mis à bosser avec beaucoup plus d'entrain et d'inspiration que ça n'avait été le cas au début.
Thank you. forme de mise en abîme de Musique et moi ce matin, Emmanuel Guibert, puisque vous apportez des musiques qu'aimaient vos amis. Donc on apprend à mieux les connaître par leur propre discographie. Vous avez aussi amené un studio, je vous en remercie, deux disques qui représentent des voyages que vous avez faits réellement ou par l'intermédiaire d'autres amis, puisque l'amitié, on l'a compris, est un moyen de transport pour vous. On va peut-être commencer par voyager en Afghanistan, puisque ça a été l'objet de votre travail sur les albums Le Photographe. Mmh. Est-ce que la musique avait accompagné ce travail-là? Elle est venue après?
Je m'étais traditionnellement acheté un... avant de me lancer dans le boulot, étant totalement ignorant en musique afghane, j'avais acheté un disque de la collection Okora Radio France sur l'Afghanistan, un disque de Roubab et de Doutar. Et puis, mais ce qu'on va écouter aujourd'hui, je crois, c'est la musique de Farida Raonak et de son groupe Shams, qui est donc un groupe de musique traditionnelle afghane. Et Farida, qui vit en France, est une grande amie de Juliette Fourneau, qui fait la couverture du deuxième volume du Photographe et qui a été la chef de mission de toutes les missions de Médecins Sans Frontières dans l'Afghanistan occupé par les forces soviétiques dans les années 80. Et la famille Raonak était amie de la famille Fourneau, donc du temps où Juliette, adolescente, était à Kaboul avec ses parents. Son père était ingénieur coopérant dans ce pays où il a fait d'ailleurs merveille, il a fait beaucoup de bien. Et ils sont restés, à travers le temps, les vicissitudes de l'exil, etc., ils sont restés des amis proches. Farida nous a fait des repas afghans chez Juliette. Et donc, je suis content de faire entendre ce morceau.
قلندرم قلندرم گم شده در بدرم قلندرم قلندرم گم شده در بدرم گم شده در بدرم گم شده خاک بسرم گم شده در بدرم گم شده خاک بسرم قلندرم قلندرم گم شده در بدرم قلندرم قلندرم گم شده در بدرم گم شده در بدرم گم شده خاک بسرم گم شده در بدرم گم شده خاک بسرم قلندرم قلندرم گم شده در بدرم قلندرم قلندرم گم شده در بدرم گم شده در بدرم گم شده خاک بسرم گم شده در بدرم گم شده خاک بسرم Thank you.
ظالم بی وفا شدی از بر من جدا شدی با قتل من رضا شدی با قتل من رضا شدی قلندرم قلندرم گم شده در بدرم قلندرم قلندرم گم شده در بدرم گم شده در بدرم گم شده خواب سرم گم شده در بدرم گم شده خواب سرم گم شده در بدرم گم شده خواب سرم.
On a beaucoup voyagé, mais on va voyager encore à une destination qu'on n'a pas encore évoquée ici, c'est celle de la Russie, celle de Saint-Pétersbourg. Je ne crois pas que vous ayez écrit sur ce pays-ci, à moins que je me trompe.
Je crois pas non plus, je finis par oublier moi-même tellement j'ai conduit. Mais le fait est que je suis allé à quelques reprises à Saint-Pétersbourg parce qu'on y a un éditeur qui s'appelle Dimitri Yakovlev et qui est aussi un organisateur de festival et un type formidable que Marc Boutavant et moi aimons beaucoup, et il nous a invités à plusieurs reprises, donc on est allé là sur la perspective Nevski se balader, traîner nos guêtres au musée de l'Ermitage, au musée russe, dans ce continent de la culture qui est la Russie. On s'en rend compte évidemment chaque fois qu'on y met les pieds et qu'on a la chance comme ça de pousser quelques portes derrière lesquelles le passé de ce pays nous attend, sous la forme de musique, sous la forme de peinture. C'est absolument inépuisable, oui, et de littérature ô combien. Et donc, voilà, à la faveur d'un passage au musée de l'Ermitage, il y avait un petit groupe qui se produisait là et qui vendait ses CD. Ce groupe s'appelle Kovcheg, et j'ai apporté un morceau que je trouve envoûtant, qui s'appelle le bouleau, du nom de ces arbres qui prospèrent sur les steppes russes, là, et qu'on voit dans les films de Tarkovski ou de Vaïda en Pologne. Et donc, si vous le voulez bien, oui, on va écouter le bouleau.
On va retomber un petit peu dans votre enfance, si vous voulez bien, parce qu'une grande partie de votre travail fait ressurgir, remonter des sensations d'enfance. des réflexions d'enfants. Vous faites ce cheminement-là tous les mois avec Ariol, régulièrement aussi avec les Sardines de l'espace. Et vous avez apporté avec vous un enregistrement d'un ami d'enfance qui s'appelle Guillaume Tournière. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette amitié-là ?
Comme j'espère qu'un jour Guillaume écoutera cette émission. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je crois qu'on avait 8 ans tous les deux. Et quand on s'est connus, on en avait 4. Et dans cette petite école du quartier de Clubière à Saint-Auban-sur-Durance. Et Guillaume était pas vraiment un voisin, mais enfin il habitait pas loin. Et de temps en temps j'allais chez lui, il y avait son frère, il y avait sa maman qui faisait des délicieuses confitures, je me souviens. Et je repartais toujours avec un pot. Et Guillaume, j'avais déjà le pressentiment que c'était un artiste. C'est fou, hein, mais c'est en même temps pas si étonnant que ça. C'était un petit enfant qui avait déjà une ou deux têtes de plus que moi, il était très grand, mais qui avait le calme, qui avait la réflexion, qui avait l'humour, mais qui avait aussi une certaine gravité, et qui avait déjà dans sa vie le piano. Et j'ai eu le bonheur de constater qu'il était devenu un chef d'orchestre apprécié, et plus que ça, enfin il a des responsabilités, il fait le tour du monde, il dirige beaucoup, et c'est toujours gratifiant, agréable de constater que quelqu'un qu'on a connu alors pour le coup tout petit a pu comme ça accomplir son destin et vivre de ce qui le faisait déjà vivre quand il était petit enfant.
Il se dit sûrement la même chose de vous.
Je sais pas. Guillaume, si tu entends cette émission, revoyons-nous et parlons-en.
Thank you. grand-mère, je ne mens pas.
Alors jure que c'est vrai.
Jurer? Pourquoi?
Tu vois, tu n'oses pas. Tout ça, c'est frivole et faribole.
Pergunte. Voilà, Guillaume Tournier dirige l'orchestre de la Suisse romande dans ce Pergunte d'Edvard Grieg. Mais alors, il faudrait aussi qu'il sache que vous êtes aussi parolier de chansons de temps à autre, Emmanuel Guibert, parce que le personnage Ariol est non seulement décliné en dessin animé, en BD essentiellement, évidemment tous les mois dans J'aime lire, mais il est aussi sur scène, et vous aussi, je crois.
Ah oui, avec mes copains Marc Boutavant, dessinateur, et Bastien Lallemand, instrumentiste bien connu et chanteur, on se retrouve de temps en temps, ou en tout cas on se retrouvait avant le Covid, sur scène pour donner un petit Ariol show de temps en temps où on s'amuse bien, où on fait les clowns et où on joue des épisodes sur scène, etc. Et on interprète un certain nombre de chansons qui ont été écrites pour les besoins de l'une des saisons du dessin animé. Et j'ai renoué avec un truc que j'adorais faire adolescent, qui était écrire des chansonnettes, et que j'ai fait abondamment entre, disons, 16 et 25 ans. Puis le robinet s'est tari ensuite. J'ai continué à me gratter le ventre dans mon atelier pour le plaisir. Mais je...
À gratter une guitare, vous?
Ouais, c'est ça, ouais. Mais je...
Et vous écrivez dans le style de...
Alors, j'aime bien pasticher, oui, ouais. Ça c'est un péché mignon. Et donc, dans le... Alors, je sais pas si c'est ce que vous allez passer, mais dans un des disques d'Ariol, Ariol prend l'avion, et il est sur une compagnie aérienne qui s'appelle Air Pop. Sur Air Pop, le steward et l'hôtesse de l'air se prénomment Serge et Jane, et ils donnent les consignes de sécurité du décollage et de l'atterrissage en chantant une petite chanson. C'est peut-être ça qu'on va écouter.
Ouais.
Bienvenue sur Air Pop. Cessez de converser, stop. Veuillez écouter les consignes de sécurité. Les ceintures s'attachent, clac. Et elles se détachent, clac. Au fait, combien font deux fois clac? Fastoche une paire de claques. En cas de dépressurisation, épisode anxiogène, vous verrez tomber de son caisson le masque à oxygène. Inspirez un coup, oh, expirez un coup, ah. Au fait, combien font A plus A? C'est drôle, ça fait ah. Si jamais, suite à un mauvais vent, l'avion tombe dans le pâtage, vous trouvez sous le siège avant un gilet de sauvetage. Fixez-le comme ça, bien, gonflez-le comme ça, fou. Au fait, combien font bien les fous? Il nous faut combien fou.
On vient d'entendre Emmanuel Gainsbourg.
Oui, oui, et Victoria dans le rôle de Jane. Et puis je suis entouré d'instrumentistes émérites, Frédéric Lemercier, Fabien Cahen, Jean-Pierre Pilot. Et on s'est amusé comme la ronce en foire pour enregistrer ces disques d'Ariol, ou passe aussi comme ça, au hasard d'une piste, Georges Brassens. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que on s'adresse à des tout petits enfants. Donc, et de temps en temps, pendant nos concerts, on en entend un qui dit...
Il capte la référence.
Il fait Gainsbourg, il fait Georges Brassens.
Mais Emmanuel Guibert, si je comprends bien, il n'y a pas seulement des références à Brassens, à Gainsbourg. Vous avez aussi une culture classique, donc vous avez assez peu parlé jusqu'à maintenant, mais quand même.
Oui, c'est beaucoup dire, mais dans Ariol, le fait est que d'abord, on a un morceau dans nos disques qui s'appelle Le Chevalier Cheval, et qui est un morceau, alors là, pour le coup, symphonique. Hein. On a fait, c'est du Sgt. Pepper, on a convoqué un orchestre de 60 musiciens, tout ça est somptueux. Et puis on a également quelques références dans Ariol rigolote. Je me souviens qu'il y a un petit canard mélomane qui s'appelle Quax, qui va suivre des cours de piano hebdomadaire, et il joue par exemple La Jeune Fille et la Truite. et puis...
On surnage dans Schubert. Ouais.
Et puis voilà, il écoute aussi, évidemment, puisqu'il est un canard bontain, abondamment Jean-Sébastien Bach.
Merci beaucoup Emmanuel Guibert pour ce partage musical qui nous a fait grandement voyager d'un bout à l'autre du monde. On est passé des États-Unis en Russie, en passant par l'Afghanistan. Quel voyage. Grand merci à Xavier Atto, à la technique Marie Grou, à la réalisation. Attachée de production, Marie Ferdinand. Passez un très bon dimanche sur France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.